VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Bras de fer États-Unis, Corée du Nord, le président américain Donald Trump a lancé dans un tweet ce vendredi une nouvelle attaque contre Kim Jong-un, le leader nord-coréen. Kim Jong-un de Corée du Nord, qui est clairement un fou, qui ne craint pas d'affamer et de tuer son peuple, va être mis à l'épreuve comme jamais, a affirmé Donald Trump dans un tweet matinal, quelques jours après son discours à l'ONU dans lequel il a menacé la Corée du Nord de destruction totale. Pour sa part, la Chine a demandé ce vendredi l'arrêt des provocations entre Américains et Nord-Coréens. L'appel de Pékin intervient alors que l'escalade verbale entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ne cesse de s'intensifier. Hier, le président Trump a émis un décret ouvrant la voie à de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, qui est également pénalisée par la Chine et l'Union européenne. Les détails avec Eric Manirakiza.
Un arsenal de sanctions économiques pour tenter de décourager les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, Donald Trump a signé un décret pour punir des personnes et sociétés finançant et facilitant les échanges avec Pyongyang. Cette mesure vise notamment des banques chinoises ou des entités russes. Les banques étrangères auront un choix clair, faire affaire avec les États-Unis ou faciliter les échanges avec le régime hors la loi de Corée du Nord, a précisé le chef de la Maison-Blanche. Il a aussi affirmé que la Banque centrale chinoise a instruit ses banques de juguler leurs échanges avec la Corée du Nord, saluant une mesure très courageuse et inattendue. Parallèlement, l'Union européenne va interdire aux entreprises européennes d'exporter du pétrole vers la Corée du Nord ou d'y investir.
Relations États-Unis-Afrique, Washington va accroître son assistance humanitaire à 4 pays, dont 3 en Afrique. Les précisions de Michel Joseph.
Le Soudan du Sud, le Nigeria et la Somalie sont les pays africains qui bénéficieront de cette augmentation de l'appui américain, le Yémen complétant la liste. Washington allouera une enveloppe additionnelle de 575 millions de dollars à cette initiative, a révélé l'Agence des États-Unis pour le développement international. Ces nouveaux fonds permettront de fournir l'aide alimentaire d'urgence, les soins médicaux, les services d'assainissement, des abris d'urgence et aussi de protéger les groupes vulnérables affectés par les conflits, a précisé l'USAID dans un communiqué. Les États-Unis vont pouvoir fournir de l'eau potable et soutenir les programmes d'hygiène pour traiter et prévenir certaines épidémies, comme le choléra, qui prévaut dans les 4 pays ciblés, souligne l'agence américaine. Des dizaines de millions de personnes ont besoin d'assistance dans ces pays, relève l'USAID, précisant que les fonds additionnels feront passer l'aide humanitaire américaine à ces pays à près de 2,5 milliards de dollars pour l'année fiscale 2017.
Au Kenya, le président kenyan Uhuru Kenyatta peut rester à son poste jusqu'à la prestation de serment d'un chef de l'État issu des urnes. C'est ce qu'a affirmé ce vendredi le procureur général du pays pour tenter d'apaiser la crainte d'une crise constitutionnelle si l'élection présidentielle devait à nouveau être reportée. Après l'invalidation en justice de la réélection du président Kenyatta lors du scrutin du 8 août, la question de la légitimité du président et de son gouvernement a été soulevée, notamment par l'opposition. Au Cameroun, explosion d'un engin artisanal à Douala ce matin à proximité d'un dépôt d'essence de la SCDP, la Société camerounaise des dépôts pétroliers. L'incident n'a pas fait de dégâts ni de victimes et personne n'a revendiqué l'attaque. Mais le gouverneur de la région du littoral où se trouve Douala appelle la population à la vigilance. L'attaque d'aujourd'hui a lieu au lendemain d'un attentat à l'explosif qui a blessé 3 policiers à Bamenda, épicentre de la crise liée à la contestation anglophone. Un acte qui pourrait avoir été commis par les partisans de ce mouvement selon les autorités camerounaises.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Togo, l'opposition reste mobilisée et ses partisans ont manifesté jeudi pour la 2e journée consécutive en vue de réclamer le départ du président Faure Gnassingbé du pouvoir. Les détails avec Lionel Gaïma.
Les manifestants continuent d'exiger le retour à la limitation du nombre de mandats présidentiels comme prévu par la Constitution de 1992 qui a depuis été modifiée à diverses reprises. En réponse à cette pression, le gouvernement togolais a soumis au Parlement un projet de réforme constitutionnelle limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Toutefois, il a omis le passage clé disant précisément « Nul ne peut effectuer plus de 2 mandats », une omission qui, de l'avis des opposants, permettrait au président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de briguer 2 autres mandats après avoir succédé à son père qui avait lui-même dirigé le Togo pendant 38 ans. D'où le boycott par l'opposition du vote prévu au Parlement sur ce dossier, ce qui a ouvert la voie à une consultation par voie référendaire. La tension demeure vive au Togo. Les forces de sécurité ont été déployées en grand nombre à Lomé, la capitale. François Patuel, chercheur pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International, a déploré dans un communiqué la répression continue des manifestations dans ce pays ouest-africain.
Au Mali, plus de 150 000 enfants sont privés d'école suite à la fermeture de plus de 500 écoles dans le nord du pays. Un constat d'Amnesty International qui interpelle le gouvernement malien pour lui demander de trouver une solution à ce problème. Pour déterminer les motifs de cette difficulté d'accès à l'école, Eric Maniakiza a joint à Dakar un chercheur auprès d'Amnesty International, Gaëtan Moutou.
Dans les zones affectées par le conflit, c'est-à-dire le Nord Mali ainsi que certains établissements scolaires dans le centre, il y avait une insécurité grandissante de par la prolifération des groupes armés qui font des pressions sur les chefs d'établissement ainsi que sur les enseignants et sur les parents pour que les enfants n'aillent plus à l'école et c'est-à-dire ne suivent plus une scolarité classique. Et donc, devant cette situation d'insécurité, les parents ont préféré ne pas envoyer leurs enfants dans ces établissements. Et les enseignants ont déserté également certains centres. Il n'y a qu'à voir, par exemple, autour de la région de Mopti, Gao, sans compter la région de Kidal, et encore sous le contrôle des groupes armés, il y a quand même cette absence de scolarité pour les jeunes enfants. Et nous avons avancé le chiffre de 150 000, c'est le chiffre que nous avons pu croiser avec d'autres sources. Nous estimons que l'éducation est un droit, et l'État malien, par conséquent, doit souscrire aux engagements qu'il a pris vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de la communauté internationale.
Ces enfants n'ont pas donc accès à la scolarité. Est-ce qu'ils sont en sécurité chez eux? Où est-ce qu'ils se trouvent en ce moment?
La majorité de ces enfants, comme dans beaucoup de pays, quand ils ne sont pas dans des établissements scolaires, ils errent dans la région. Il y a quand même ces attaques de groupes armés contre des petites villes et des points militaires. Donc, si vous voulez, il y a quand même une insécurité grandissante dans les régions que je viens de citer.
Est-ce que la situation actuelle est liée à un manque de volonté quelconque ou l'État se trouve dans l'incapacité lui-même?
C'est souvent le cas quand on s'adresse aux autorités. On parle de moyens. C'est le leitmotiv quand on discute avec des autorités. C'est-à-dire les moyens, nous sommes victimes d'attaques de groupes armés, mais nous avons également les forces des Nations Unies qui soutiennent l'État malien. Et nous estimons qu'on doit créer des sanctuaires pour que les enfants puissent avoir accès à la scolarité.
En dehors de l'État, il y a d'autres acteurs qui interviennent dans le domaine, comme l'UNICEF par exemple. Est-ce qu'ils se manifestent?
Oui, il y a des organismes qui s'occupent de l'humanitaire, qui soutiennent l'État malien. Mais nous estimons que le rôle premier d'un État, c'est véritablement d'assurer d'abord la sécurité et de faire en sorte que les droits des populations soient respectés, dont le droit à l'éducation.
Gaëtan Moto, chercheur d'Amnesty International à Dakar, au Sénégal. Gambie, la peine de mort est en voie d'être abolie dans le pays. Le président gambien Adama Barrow s'y est engagé hier devant les Nations Unies. Eddy Sango.
Le chef d'État de la Gambie, élu en décembre 2016, a en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York signé 5 traités. L'un porte sur l'abolition de la peine capitale. Les autres traités concernent la protection des migrants, les disparitions forcées, la transparence des investissements et l'interdiction des armes nucléaires. En signant ces traités, la nouvelle Gambie continue à promouvoir la démocratie et démontre son engagement à protéger la vie des activistes politiques, précise la présidence gambienne dans un communiqué. La Gambie a été dirigée d'une main de fer pendant 22 ans par Yahya Jammeh, un ancien militaire. En août 2012, il avait fait fusiller 9 détenus, dont 2 Sénégalais, entraînant une vague de protestations internationales, particulièrement au Sénégal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.